Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Vous savez que le partage de la route, on parle beaucoup de cette expression, c'est très à la mode à Montréal et un peu partout au Québec. Mais le partage de la route, c'est une des affaires les moins évidentes. Êtes-vous d'accord? C'est pas évident. Puis il y a bien des gens qui ont pas l'air de comprendre ce que ça veut dire dans le fond. Il y a quelques semaines, d'ailleurs, à peine, il y a un cycliste de 67 ans qui est mort à Montréal après avoir été heurté par une camionnette. Il y a un an, on se souvient de ce cycliste aussi sur le chemin Camillien-Aude à Montréal qui est mort. Lui aussi, après avoir été heurté par un VUS. C'est un automobiliste américain là, qui effectuait un demi-tour interdit sur cette voie Camillien-Aude qui, depuis, a été fermée plutôt à la circulation. D'ailleurs, hier, au pied du Mont-Royal, il y avait pas mal de monde là, qui sont venus souligner, rendre hommage à Clément Ouimet et rappeler que le premier anniversaire de cette mort tragique doit nous encourager à avoir un meilleur comportement. J'écoutais justement cette semaine mon collègue, le chroniqueur à la circulation 98.5 FM, Marc Brière, parler de ça, parler de son expérience aussi parce que Marc a été pendant plusieurs années porte-parole de la campagne pour nous éduquer un peu sur notre comportement. Et je me disais, il faut reparler de ça parce qu'en plus, là, il y a une nouvelle campagne de Vélo Québec pour interpeller les cyclistes. Alors, Marc est avec nous. Oui. Merci d'être là.
Un plaisir.
Tu es vraiment la meilleure personne pour parler de ça parce que toi, tu es tout le temps dedans, tous les matins, toute la journée, tu es dans la circulation, tu as les yeux rivés aussi sur les comportements des gens. Tu le dis souvent, Marc, puis on s'en parle souvent ensemble. On n'apprend pas. Je pense que c'est ça qu'il faut conclure.
C'est difficile, la cohabitation sur les routes. On parle des automobilistes, on parle des cyclistes, les camionneurs, les piétons. Ça fait beaucoup de monde qui utilise un même réseau. Et le respect, avec le temps, on dirait que ça se dissipe. Plus il y a de difficultés sur le réseau, plus la frustration augmente, ça, on le comprend. Par contre, au niveau du manque de civisme, ça devient vraiment un gros problème. Mais oui, t'as raison. Pendant 5 années, j'ai tenté, comme porte-parole de la campagne nationale, la courtoisie, ça fait du bien. Ça, c'est au début des années 2000, de 2000 à 2005-2010, dans ce coin-là. On a essayé, je dis « on » parce qu'évidemment, il y a plusieurs partenaires dans ça, on a essayé d'éveiller un peu les consciences, de dire aux gens « ben la courtoisie, ça fait du bien », puis essayer de partir un mouvement d'entraînement. C'est-à-dire que si moi, je suis courtois avec toi, peut-être que toi, tu vas l'être avec l'autre et que l'autre le sera avec l'autre, etc. C'était ça le but de l'exercice. Et sur le coup, on pensait voir un certain changement, mais 10 ans plus tard, ou en tout cas 8 ans plus tard, je réalise que ça n'a pas beaucoup changé, du moins pas tant.
Est-ce que ça existe encore, cette campagne nationale, la courtoisie, ça fait du bien?
Je sais que nous, dans le temps, c'était au mois de mai. Je ne crois pas que sous la forme, ça existe encore de la même façon dont on le faisait avant. Je pense que la SAQ fait encore des campagnes pour tenter de sensibiliser les gens. Mais bon, puis il y a une période, là, une semaine de la courtoisie qui existe, mais ce n'est plus un effort concerté parce qu'à l'époque, il y avait...
C'est quasiment un constat d'échec. Genre, on l'a essayé, mais évidemment, le monde comprend rien. Fait qu'on va laisser faire.
Je l'ai dit cette semaine à l'émission du collègue Paul Arcand, puis je le disais avec un peu de peine parce que j'ai mis quand même de l'énergie dans ça. Mais à un certain moment, comme l'impression d'avoir un peu prêché dans le désert.
Incroyable. On a avec nous Marc-André Léger. Il est cycliste. Il est spécialiste en sécurité informatique. Il donne des cours également à l'Université Concordia. Bonjour, Marc-André.
Bonjour.
On voulait un cycliste pour notre discussion parce que forcément, là, en plus, il y a cette campagne de Vélo Québec ces jours-ci, une nouvelle campagne de prévention. Ouais. Le thème, c'est « Sur la route, notre sécurité est liée à celle des autres ». C'est un peu long, mais bon. On comprend le concept, hein, Marc-André?
Oui, puis c'est clair qu'il y a du travail à faire. Hein. La courtoisie, là, c'est vraiment un gros problème.
Mais c'est quoi être courtois pour vous, comme cycliste? Là? Pour vous, un automobiliste courtois, il fait quoi? Comment il vous traite? Dites-nous ça. Là.
C'est pas différent, parce que la plupart des cyclistes, on est aussi des automobilistes. On utilise, comme pour moi, le vélo, ça fait partie de mon cocktail de transport. J'utilise le vélo, l'auto, l'autobus, le métro, l'avion. Ça dépend où je vais. Ça dépend des circonstances. Mais quand je me déplace, je fais attention aux autres. Je pense que je ne suis pas la seule personne au monde. Il y a d'autres mondes autour de moi. Donc, quand je suis à vélo, ben ça veut dire ralentir quand j'arrive à un stop. Peut-être pas faire le stop, mais ça, je peux comprendre. T'sais, moi, j'ai un vélo avec des clips pour mes souliers.
C'est gossant arrêter au stop, c'est ça?
En fait, j'arrive à arrêter, mais pas trop longtemps, juste pour garder mon équilibre et repartir. Mais je comprends que c'est pas toujours... Mais en même temps, c'est sûr que s'il y a des autos qui s'en viennent, s'il y a des piétons qui s'en viennent, si quelqu'un, s'il y a une traverse de piétons puis un piéton, ben c'est sûr que moi, je vais arrêter. Mais c'est pas tout le monde qui arrête. Hein, ça, non, c'est clair. Mais
ça,
mais ça on
l'histoire
dire
des
clips,
là, ça, oui, c'est très vrai, l'histoire des clips. Oh, oui. Parce que Marc-André nous raconte, c'est très vrai, Marc, là. Il y a des gens, là, ils veulent pas déclipper, là, on va le dire en guillemets.
Ben oui, je comprends.
Et toi, tu le vois arriver, là, ça m'est arrivé encore cette semaine. Je me dis, oh mon Dieu, c'est impossible de tourner à Montréal, non, de toute façon. Mais
ben, à Montréal, je comprends moins, malgré qu'il y a des endroits... Quand il y a personne, quand la voie est vraiment libre, qu'on a pris le soin de bien regarder, je peux comprendre ce qu'on appelle le stop à l'Idaho.
Ouais, c'est ça.
Ralentir, s'assurer qu'on est sécuritaire, puis continuer quand il n'y a pas de circulation.
Mais en même temps, moi, je m'en viens pas à 30 km/h en vélo. Là,
ben voilà.
Parce que de toute façon, avec le vélo que j'ai, je peux pas me permettre ça. J'ai des roues en fibre de carbone. Il y a tellement de trous, puis de craques, puis de bouches d'égout, puis de tout ce que tu voudras, qui sont un risque vraiment d'endommager mon vélo quand je roule ville. Moi, je suis un citadin, j'habite à Hochelaga-Maisonneuve, je travaille à Concordia, donc vous pouvez voir à peu près mon parcours. Là.
Et tu fais ça en vélo tous les matins?
Oh non, pas tous les matins, je suis un petit peu paresseux des fois. Mais j'essaie de le faire. J'essaie de le faire le plus souvent possible. Et puis, mais il y a beaucoup de possibilités d'endommager mon vélo. Donc, je roule pas comme un malade. Je roule à une vitesse relaxe, tranquille.
Marc?
Parce que dans courtoisie, il y a évidemment tout le côté civisme. Le côté, bon, remercier quelqu'un qui nous laisse passer, sourire un peu, se calmer.
Oh mon Dieu,
pas couper la voix. Bon, ouais. Tous ces trucs-là. Mais ça, c'est le côté savoir-vivre. Mais il y a aussi le côté respect du code. Puis oui, il y a le code de la sécurité routière. Mais moi, je parle du code de conduite qu'on s'est donné.
Oui.
Ensemble, les usagers ensemble, il y a un code de conduite il est supposé. Devrait y en avoir un.
Oui.
Et si tout le monde s'entend pour suivre un certain code de conduite, ça va mieux fonctionner. Le problème, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un sort de cette façon-là de fonctionner, ça met du sable dans l'engrenage et ça amène des problèmes supplémentaires. Et puis là, il y en a un qui manque de courtoisie, il y en a un qui respecte pas le code, l'autre va dire, lui, il l'a pas respecté. Voilà.
Mais ça, tu parles pas du code de la route. Là.
Non, c'est deux choses différentes.
Règles non écrites, mais que tout le monde devrait un peu connaître.
Oui, mais il y a un peu du code de la route là-dedans. La signalisation, je m'excuse, mais c'est pas là pour rien. Il y a une raison. Bon, les stops à vélo, je disais tantôt, je comprends, faut pas venir fou, là. Je comprends qu'à un certain point, il y a une certaine rigidité du code de la sécurité routière qu'on peut assouplir dans des situations précises. Mais moi, quand je dis code de conduite, c'est simplement dire les piétons ont une priorité. Pour les automobilistes, c'est important de le respecter, mais pour les cyclistes aussi, respecter la priorité des piétons. Et à l'inverse, on tente de protéger le plus petit. Mais j'ai souvent entendu des gens à vélo dire « c'est votre responsabilité à vous dans vos voitures de faire attention à nous ». Il y a un peu de vrai là-dedans, mais je pense qu'il y a aussi le cycliste lui-même qui doit se soucier de sa propre sécurité. Et en ce sens-là, la campagne de Vélo Québec, je la trouve très positive parce que malheureusement, souvent j'ai entendu le doigt accusateur de la part de Vélo Québec. Vous, dans vos voitures, vous êtes le problème. Vous n'êtes pas pris dans la congestion, vous êtes la congestion. Et là, je sens une ouverture au partage de la route et j'aime ça.
Ouais, ben sûr qu'il y a plusieurs aspects à tout ça là. Tu sais, on partage la route, mais en même temps, je pense qu'il y a des habitudes
qui sont longues à.
Oui, parce que si je compare, moi je voyage beaucoup, puis
des mauvaises habitudes dont il faudrait se débarrasser.
J'étais à Copenhague. On parle toujours de quand on parle de vélo, on parle toujours de Copenhague. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais aller voir. Ben à Copenhague, essaye de traverser la rue quand il y a une piste cyclable. Tu vas voir que. Tu vas te faire mettre à ta place, hein, comme piéton, là. On va te taper, on va te dire, monsieur, là, on va te crier après, on va te claquer ou sonner, là. On va dire, get off.
Sonnette, ouais. Ah, ouais.
Enlève-toi, là, t'es dans la piste cyclable, là.
Ouais.
Puis même, on va te rentrer dedans, carrément, les vélos, ils vont te rentrer. Mais,
on a-tu besoin d'aller à Copenhague pour ça? Parce que je pense qu'à Montréal, c'est les pistes cyclables.
Dans
le
sens que.
Il y a des cyclistes aussi qui le font.
La piste cyclable, c'est bien établi. La piste cyclable, c'est pour les vélos.
Ouais, c'est ça. C'est pas des pistes multi.
Mais c'est ça. Mais d'une certaine façon, c'est pas fou, là. D'un point de vue cycliste, je me mets à la place des cyclistes. Puis quand je vais sur des pistes cyclables, puis que je vois des poussettes, du monde en roller. On a tout au Québec.
Les quadriporteurs.
Oui, toutes sortes d'affaires. Et incluant des piétons, t'as envie de dire, ben là, c'est peut-être pas le lieu. Mais en même temps, au Québec, on a une offre de pistes cyclables qui est déficiente. Je dirais à Montréal. Moi, je voudrais partir de chez moi, l'île des Sœurs à Verdun, parce que j'en peux plus du trafic. Je voudrais le faire en vélo, là. Normalement, ça devrait me prendre 15 minutes.
Ouais.
Tu sais? Ah oui. 10 minutes pour y aller, en bas de la côte, ici, Robert Bourassa, 5 minutes pour la montée.
À peu près.
Parce que c'est autre chose. Mais bref, tu sais, normalement, je pourrais le faire 15 minutes. Non, ils me font aller dans l'ouest par Saint-Henri. Tout. Mais non. Je le fais pas, là, parce que ça me prend 40 minutes. Alors, je prends mon auto, mais voyez-vous, puis il y a plein de monde qui ferait ça de Verdun. Là.
Mais quand il y en a, souvent, la qualité est déficiente.
Puis en plus, la qualité n'est pas bonne, c'est
Écoute,
ça.
Mais on a fait le choix des bandes cyclables, on a fait le choix des pistes multifonctionnelles, plusieurs usagers. Puis c'est un choix, c'est une décision qui a été prise en ce sens-là. Les bandes cyclables, dès l'arrivée de ce genre de structure-là, je parle des bandes cyclables, là, il y a le trottoir, il y a l'espace de stationnement, il y a la bande pour les cyclistes. La première fois que j'ai vu ça, mais j'ai dit, ben c'est sûr que quelqu'un va ouvrir sa porte de l'emportiérage, ça va arriver, là, ça peut pas faire autrement. C'est une drôle de configuration. Mais oui, être courtois, ça fait partie pour un automobiliste. Oui. Quand on se gare à côté d'une bande cyclable, de prendre une habitude, de créer un automatisme, là, on regarde dans le miroir voir si un cycliste s'en vient.
Puis là, on parle même pas des trappes à tickets, hein, parce que il y a certaines pistes cyclables, là, comme par exemple au coin René Lévesque et puis Berry, là, c'est des trappes à tickets. Les policiers à vélo s'installent là, puis attendent. Puis là, quand il y a des cyclistes qui passent, là, ils comptent ton nombre de réflecteurs. Puis là, allez sur Facebook voir les groupes de discussion de cyclistes là. À tous les jours, il y a des longs messages.
Mais c'est pas la loi?
Ben, c'est la loi, mais la quantité, le volume de contraventions, je voyais des chiffres il n'y a pas longtemps là, de la hausse des contraventions qui ont été données à des cyclistes. À un moment donné, les cyclistes ont l'impression que c'est de l'acharnement et beaucoup de cyclistes vont éviter les pistes cyclables, vont plutôt aller dans la rue parce qu'ils savent que les policiers, eux, ils s'installent dans les pistes cyclables pour donner tous ces
Mais le principe de la trappe à tickets, que ce soit en vélo, en auto ou même à pied, c'est à proscrire, on s'entend.
Oui, on sait que ça arrive, on sait que c'est déjà arrivé, on sait que ça arrive encore pour toutes ces histoires de contraventions. Bon, pour ce qui est des réflecteurs, je comprends que ça peut sembler comme être un excès de zèle dans certains cas. Ça l'est peut-être.
Ben, c'est plus de 100 $
En même temps, même Vélo Québec le dit, la responsabilité du cycliste, c'est d'être visible. Et le nombre de réflecteurs sur un vélo, c'est une loi. C'est pas t'en mets comme tu veux.
Ouais. Les stops, tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui réagissent, Marc-André, à votre commentaire sur les clips, là. C'est comme quoi, ben là, je roule, je mets à vitesse, là, s'il faut que j'arrête puis que j'enlève mes clips, ça fait pas mon affaire. Il y a bien du monde qui dit, ben c'est ça, moi en auto, là, s'il y a personne, moi y aller, je ferai pas le stop, tu sais. Je vais juste ralentir, ça s'appelle un stop américain.
Ben il y a bien des places
dans le monde. Normalement, s'il y a une police, tu t'as pas le droit, là.
Ben, j'ai habité au Nouveau-Brunswick, il y a longtemps, il y a plusieurs années, puis il y a bien des intersections, il y avait pas de stop. Il y avait un CD.
Ouais,
c'est des passages. Ouais. Mais faut être honnête aussi, conducteur, automobiliste, faut pas se mentir à nous-mêmes. Il y en a beaucoup de gens qui font des stops à l'américaine, même en voiture.
C'est sûr.
Mais effectivement, faut aussi prendre en considération. Puis, vous savez, moi, je travaille comme chroniqueur circulation. Je suis dans l'automobile, le camion.
Ouais.
Je suis un peu un gars d'auto. J'aime les voitures. Mais il faut quand même comprendre qu'on a un véhicule lourd, puissant, ou en tout cas plus puissant qu'un vélo, on peut dire ça, et qu'il y a un risque et une responsabilité associée à ça. On doit être doublement prudent si on est deux fois plus à risque de blesser quelqu'un.
Tout à fait. Et ça me permet de rappeler, Marc, au Québec, plus de 70 piétons et cyclistes meurent chaque année à la suite d'un impact avec un véhicule. Chez les cyclistes, un accident mortel sur trois, un sur trois, met en cause un véhicule lourd.
C'est beaucoup trop.
Véhicule lourd.
Absolument, c'est beaucoup trop. Et c'est pour ça que je suis content qu'on sorte un peu de la dynamique. C'est ta faute, non, c'est la tienne. C'est le méchant dans son char, non, c'est le méchant sur son bicycle. C'est lui qui a pas de... C'est parce qu'à un moment donné, on n'arrivera jamais à rien comme ça. C'est une chicane, c'est stérile, c'est toi le pas fin, non, c'est toi le pas fin. Je pense qu'il faut... À un moment donné, faut se regarder nous-mêmes, s'assurer qu'on est tout d'abord nous-mêmes sécuritaires et ensuite regarder l'ensemble.
Ouais. Puis il faut réaliser que, bon, moi,
beaucoup de gens veulent intervenir.
J'enseigne, je suis en sécurité, en fait. Ben, il y a ce qu'on appelle le biais d'optimisme. C'est-à-dire, tout le monde pense qu'ils sont un super bon conducteur ou un super bon cycliste. Et tout le monde pense que les accidents, ils arrivent juste aux autres, les méchants, pas bons.
Mais là-dessus, j'ai une statistique qui date du temps. Puis rapidement, quand j'étais porte-parole de la campagne de courtoisie au volant, on avait établi que 85 % des Québécois considéraient que le manque de courtoisie sur les routes, c'était un problème majeur. Mais ce même pourcentage-là considérait qu'eux étaient courtois.
Bien sûr.
Ben,
c'est toujours ça. On va aller écouter, nos lignes sont pleines, les gens vont intervenir là-dessus. C'est toujours un peu le débat, finalement. Comme automobiliste, je vous pose la question, est-ce que vous êtes assez courtois, d'après vous, directement en lien avec ta stat, Marc, est-ce que vous pensez que vous êtes assez courtois envers les cyclistes? Ou est-ce que vous pensez plutôt que c'est eux le problème? 514-790-9850, 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Alors, Paul-André, dites-moi, êtes-vous un automobiliste ou un cycliste?
Je suis un automobiliste.
Êtes-vous courtois, d'après vous? Assez courtois?
Ben écoutez, moi, je travaille comme agent de sécurité patrouilleur. Mm-hmm. Donc, au niveau de mon métier, j'ai pas le choix d'être courtois sur la route et de faire attention à ce qui se passe. Mais je peux vous dire qu'à quelques reprises, ça m'est arrivé d'avoir des cyclistes qui n'ont pas respecté le code de la route, donc automatiquement les stops, entre autres un en particulier sur une lumière. Vous savez, quand on a la lumière verte qui clignote pour nous permettre de tourner le virage à gauche.
Oui.
Alors le cycliste a passé directement, lui était sur sa lumière rouge de l'autre côté. Ouais. Il a passé carrément. J'ai freiné, il a zigzagué autour de mon véhicule. Non. Et pour lui, malheureusement, cette fois-là, il y avait un policier qui était pas loin. Et les policiers sont partis après, puis ils l'ont arrêté, là.
Ah oui!
Ils ont donné,
un policier arrêté un cycliste, j'ai jamais vu ça, mais ça se peut, là.
Effectivement, c'est arrivé comme ça. Et puis, ça m'est arrivé. Et puis, moi, comme je vous dis, je travaille de nuit.
Ouais.
Donc, on s'attend à ce que les gens soient vraiment visibles aussi. Et je suis toujours de lever mon chapeau au Bixi. Parce qu'eux ont des petites lumières qui flashent dessus, là.
Ouais.
Donc, eux autres sont très, très faciles à voir. Mais on se dirait que, tu sais, quand tu roules à Montréal, tout est bien éclairé partout. Malheureusement, c'est pas le cas.
Ouais.
Et ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir presque des accidents avec des cyclistes qui, moi, je tournais à gauche, puis eux continuaient tout droit. Il y avait un stop à faire.
Mais ils l'ont pas fait.
Ah, ouais. Ben non. Puis en Bixi, on s'entend qu'ils n'ont pas les clips là, après les chaussures. Là.
Non, c'est une question d'attitude. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de cyclistes. Paul-André, Marc-André peut peut-être le dire. Est-ce que c'est juste dans la tête des cyclistes? Ils pensent que la piste cyclable, c'est je peux rouler tout le temps, puis j'ai pas besoin de m'arrêter. Il y en a qui pensent ça.
Mais il y en a carrément qui sont imbéciles, ça aussi, hein, même chez les cyclistes. Et puis, je veux dire, moi, quand je fais du vélo, je m'habille avec des couleurs voyantes. J'ai des phares, j'ai des lumières qui flashent, puis qui est tout le kit, là. Moi, j'ai tout ça, mais et combien de temps, j'en vois des habillés en noir. Oui. Tout en noir, très chic.
Manque de réflecteurs.
Pour faire du vélo la nuit. Ouais. Et même avec des réflecteurs, il pleut, là.
Non, oublie ça.
Je veux dire,
faut être visible.
On a Luc avec nous. Bonjour, Luc.
Bonjour.
Vous êtes piéton, cycliste, automobiliste?
Les deux.
OK, on vous écoute.
Vélo, je marche et je fais du vélo. Moi, je vais tempérer mes mots parce que ton recherchiste me dit d'être gentil.
Pourquoi? Vous vouliez pas être fin? Vous vouliez pas être gentil?
Ben, écoute. Je dirais pas de gros mots à radio parce que c'est une personne quand même qui me respecte et qui respecte les gens à la radio. Il y a des cyclistes gentils, il y a des automobilistes gentils. Et il y a des bip 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 de cyclistes et des bip 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 d'automobilistes.
OK.
Je me promène sur les pistes cyclables avec mon vélo. Je ne vais pas sur les rues. Je respecte la signalisation. Sauf que il y a des cyclistes qui se promènent dans les rues en peloton le dimanche avec le beau saut toutes sortes de couleurs. Avec des beaux bicycles, avec des gros signes de dollars, et ils prennent l'heure. J'empêche personne de faire du sport, sauf que moi, je ne vais pas avec ma voiture dans tes pistes cyclables, puis viens pas dans. Tu comprends-tu? C'est comme le partage, oui, mais il y a des pistes cyclables. Le gouvernement investit tellement d'argent pour que le récréo touristique, le récréo vélo, le récréo piéton, raquette, ce qu'ils font, soit amélioré au Québec pour que les gens profitent. Ces filles roulent dans les rues.
Ouais.
Et au centre-ville, moi, j'ai travaillé pendant 25 ans au centre-ville, et Sherbrooke, avec les kistes de vélo, là, écoute, c'est infernal. C'est infernal. Les vélos en ville sont dangereux. Pas tous, je pèse mes mots, comme il y a des automobilistes que je disais tantôt qui sont dangereux.
Mais ça revient souvent.
Ouais. Merci, Luc.
Ça, Isabelle,
Marc Brière.
Ça revient souvent. Quand il y a une piste cyclable, et que le cycliste est dans la rue, tout près de la piste cyclable, mais se mêle aux voitures, c'est un des trucs qui amène énormément de frustration. Il y a peut-être une bonne raison à ça. Je dis pas que c'est toujours totalement imbécile. Je suis conscient que parfois la piste cyclable est bloquée. Un camion de livraison, un véhicule stationné qui a pas d'affaires là, il y en a beaucoup.
La construction,
des détours imposés, mais ça, c'est pour tout le monde. Mais ça vient frustrer les gens parce qu'on dit la piste cyclable, elle est là. T'es sécuritaire. Elle est divisée, séparée de la route. Pourquoi tu viens dans les voies pour la circulation automobile? Pourquoi faire ça?
Ben, écoute, je comprends, mais en même temps, le vélo, il a le droit de rouler dans la rue.
C'est vrai.
Donc, il a le droit, s'il veut être là. Mais bon, quand même, dans le cas là, de l'auditeur qu'on vient d'entendre,
de Luc.
Là, on parlait de peloton. Là.
Ouais.
Alors là, c'est autre chose. Peut-être que dans les rues de Boucherville ou en banlieue, ça a du sens. Mm. Mais c'est clair qu'à Montréal, il faut être cave. Là,
Moi, j'appelle ça gentiment des cabochons.
Oui, mais il y a eu beaucoup de cyclistes qui se sont plaints. Je veux dire, dernièrement, j'ai eu à traverser la ville à partir de l'ouest pour aller à l'est. Puis sincèrement, c'était la congestion. Marc, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Là, c'était l'enfer. C'était l'heure de pointe qui approchait. C'était 2 heures.
Ben oui.
Puis je me disais, Camille Lienhoude m'aurait permis d'éviter, de sauver beaucoup de temps. Puis en plus, sincèrement, moi, j'adorais cette promenade du Mont-Royal.
Ah, moi aussi.
J'avais l'impression, oui, j'étais dans une auto, mais à coup de poche, je suis une automobiliste. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Je suis pas toute seule, visiblement. Mais je suis pas méchante non plus à cause de ça. Puis ma voiture, j'essaie de la prendre de moins en moins polluante. Mais je vais plus voir le Montréal. Je lisais dernièrement, à cause de Camille Lienhoude, on a redonné la montagne aux Montréalais. Excuse-moi, là. Non. Pas aux Montréalais. À une partie sur deux roues des Montréalais. Puis même encore, pas à tous les cyclistes non plus.
Non, on en fait un site d'entraînement.
Exactement. Ouais. C'est beaucoup plus les pelotons.
Moi, quand j'avais des amis...
Les pelotons dont on parle, ils sont tous là maintenant.
Quand j'avais des amis de d'autres pays qui venaient visiter Montréal...
Ouais. On les amenait là.
Je les amenais là, montais d'un bar, je traversais à Westmount.
Oui.
C'est une belle petite balade à faire avec des touristes.
Et c'est sûr que la mort tragique de Clément Ouimet, c'est épouvantable qu'un cycliste soit mort parce qu'il a été frappé pour un véhicule, mais on va-tu fermer toutes les routes? Je veux dire, ce qui s'est passé sur Camille Lienhoude, moi, je continue de penser que c'est une erreur monumentale, qu'on a séparé la ville en deux, les Anglais, les Français, c'est encore ça. On n'a pas besoin de ça. Regardez tout ce qu'on dit en politique en ce moment. Je veux dire, ce matin, on parle de PLQ, qui n'est que le parti des anglophones puis des allophones. On est encore poigné là-dedans. Montréal fait quoi? Sépare la ville en deux encore.
Ouais.
Mmh. Ouais, que le Mont-Royal, c'est un lien entre les deux solitudes.
Oui. Mais en même temps, je comprends que la mairesse de la mobilité devait réagir. Ils avaient...
Pourquoi? Mais en fermant la rue?
Il fallait qu'ils fassent quelque chose. Il y avait beaucoup, beaucoup de pression.
Mais on aurait pas
sur les médias sociaux.
Une belle campagne.
On aurait pu modifier la configuration des lieux. C'est un virage en U qui est illégal et interdit. C'est ça qui a causé le décès très malheureux et tragique de ce jeune homme. Mais on aurait peut-être pu configurer l'endroit différemment, agir autrement que de dire « dehors les autos ».
Oui, puis en même temps, il faut être conscient que ça, c'est une place, c'est un endroit. Mais il y a des problèmes comme ça, il y en a à grandeur de Montréal, à grandeur du Québec.
C'est pas facile.
On a Bernard avec nous. Bonjour, Bernard.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui, je suis à la fois conducteur et cycliste. Je fais un 100 km dans une journée, à tous les jours que je peux le faire. Et à chaque intersection, maintenant, moi et ma compagne, nous descendons de notre vélo, main sur la selle, et il n'y a pas une journée, malgré tout, que tu traverses au travers avec les grosses lignes rouges jaunes, le bonhomme dans le milieu. Il n'y a pas une journée où on n'a pas passé proche de se faire tuer. On s'est fait intimider, on s'est fait couper. J'ai porté 2 plaintes à des services policiers, et avec plaques, numéros et photos, et il n'y a jamais eu de retour. C'est extrêmement dangereux de faire du vélo.
Oui, c'est sûr, mais c'est dangereux pour tout le monde. Le problème, encore une fois, vous le dites, vous vous faites couper, vous faites insulter, c'est risqué, c'est dangereux. Bon, on revient à ça, on revient à la prémisse de ce segment de l'émission, c'est de dire le manque de courtoisie, le manque de civisme et le manque de respect surtout, ça vient beaucoup envenimer les choses, envenimer la situation. Si on cessait de regarder l'autre, qu'on se regardait un peu nous-mêmes, qu'on était conscient du danger qu'on peut représenter, je pense que ça irait mieux pour tout le monde.
Moi, je pense, on va aller à la pause là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Nos lignes sont pleines. Fait que je pense que ça mérite qu'on discute encore quelques minutes, d'entendre nos auditeurs là-dessus. Il y a Serge qui m'écrit, qui est camionneur, puis il dit, moi, je suis obligé de porter un dossard jaune. J'ai été facteur aussi. Le dossard est exigé. Je peux pas comprendre pourquoi la loi n'oblige pas les cyclistes à en porter de un. Puis, il faudrait se réveiller à ce niveau-là parce que le problème, c'est qu'on les voit pas. Et ça, des gens qui disent ça, j'en ai plein, le courriel des gens là, qui m'ont dit, on les voit pas, les maudits cyclistes. Faudrait qu'on les voit. Si on les voyait, on les frapperait pas, là. C'est parce qu'on les voit pas.
C'est
alors
primordial.
Dites-moi, est-ce qu'effectivement, c'est ça le problème? 514-790-9850. À tout de suite. Bonjour Daniel, êtes-vous un automobiliste?
Non, ben oui, camionneur en même temps.
Ah bon, ben dites-nous donc, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que
mardi soir, j'ai failli frapper une petite fille, moi, sur la 111 en Abitibi. Et puis, si ça n'aurait pas été de ses réflecteurs sur son petit vélo, là, le tout en avant de moi l'aurait frappé, puis moi aussi. Puis moi, là, quand je conduis mon poids lourd, je suis obligé de faire des inspections avec mon poids lourd à tous les jours. Point de vue les lumières d'éclairance, les clignotants.
Ouais.
Fait que moi, il ne viendra pas me faire broyer parce que les policiers ont décidé d'appliquer le code CSR d'un petit plat parce que nous autres, avec tout partout, on se fait pogner dans des trappes. C'est sa responsabilité, c'est leur responsabilité d'être voyant. Ouais. S'ils veulent qu'on soit vigilant, soyez voyant, c'est-tu clair? Ouais. C'est pas compliqué, c'est ça. Ouais. C'est le gros bon sens pour tout le monde. Puis les États-Unis, on peut les reconnaître, les Québécois qui font du vélo. J'ai passé 2 semaines de vacances dans l'Est des États-Unis, puis on peut les reconnaître. Oh, gun quit, hein? Oh, Dodger, de la même affaire. Ceux qui font pas le stop, c'est drôle, parce que les autres, ils arrêtent, ils passent. Tu peux le savoir? Tu les entends parler français entre eux autres.
Ouais. T'sais? Ouais.
J'excuse, mais c'est ça la réalité, monsieur.
Fait que donc, vous vous dites que là, c'est parce que les cyclistes sont pas assez visibles. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Michael, bonjour.
Bonjour. Je suis automobiliste et cycliste.
Ouais.
Je fais environ 4 à 5 000 km en vélo par année, puis peut-être 6 fois ça en voiture. Je pense qu'en ville, parce que je peux juste parler de la ville, c'est surtout mon coin où est-ce que je me promène, les cyclistes manquent un petit peu de connaissances par rapport aux véhicules. Mm. Il y a beaucoup de cyclistes en ville, des messagers à vélo qui ne conduisent pas, qui ne savent pas c'est quoi le temps de réaction d'un véhicule, c'est quoi le temps de freinage, puis le dégât qu'un véhicule peut faire sur un humain. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'automobilistes qui ne comprennent pas la vulnérabilité des cyclistes à la route. Un cycliste, c'est un petit bicycle qui coûte 100$ ou qui coûte 10 000. Le bicycle, si je m'accote dedans avec un véhicule, m'a tombé à terre, puis tu piles dessus, va me péter une jambe, puis je vais peut-être mourir. Fait qu'il y a ce manque-là. Mais par contre, pour les pistes cyclables, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier. Je suis 100% d'accord avec l'idée d'être vu. Par contre, les réflecteurs, c'est une loi qui date de dizaines d'années. On se promène sur une piste cyclable avec un véhicule, avec un bicycle à 1 000, 5 000, 10 000 $, puis on essaie d'être intelligent, on évite sur nos souliers, sur notre linge, sur le vélo. Mais si on décide d'avoir une lumière sur le vélo, à l'avant, à l'arrière, moi, j'ai un radar sur mon vélo également, un Garmin Varia. Mais avec ces lumières-là, je suis 100 fois plus visible que n'importe qui d'autre avec mes réflecteurs. Mais par contre, j'obtiens un ticket de 155 $ parce que j'ai pas de réflecteurs dans les roues. Même si mes roues sont réflectives d'origine avec des collants gigantesques, si j'ai des lumières qui clignotent, je ne suis pas légal. Puis les policiers, à place d'encourager ça, ils nous filent un ticket de 155 $. Ils nous disent remplacez vos lumières ou rajoutez des collants miniatures, puis là, vous allez être légal. Mais en ce moment, là, c'est un citron qui squeeze, de non pas pour le bien des cyclistes, mais c'est pour des taxes qui en profitent. La preuve, la majorité des policiers à vélo que je retrouve sur le Mont-Royal sont eux-mêmes non légaux. Ils n'ont pas les réflecteurs physiques à l'avant et dans
c'est
le
trou.
Absolument. Mais pourtant, eux, on leur parle pas. Ça prend un réflecteur à l'avant physique, pas un collant, un réflecteur avant, arrière, ainsi dans les roues et sur les pédales. Les souliers, par contre, ça, c'est pas bon, mais ça prend sa pédale. Mais il n'y a pas une pédale à clip sur le marché qui coûte 100 $.
Non, mais si tu as des pédales à clip, tu peux avoir des...
Merci.
Si tu as des pédales à clip, tu peux avoir... c'est prévu là dans la loi, ça. Tu peux avoir un réflecteur...
Qui est sur la pédale?
Non,
qui est où? Comme une, sur la chaussure?
Sur la cheville, là.
Comme une strap ou une...
Je comprends ce que monsieur dit aussi, mais en même temps, il y a comme une normalisation, là, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir le même niveau de sécurité sur tous les véhicules de type vélo, sur tous les vélos, fait. Je comprends pourquoi c'est là,
Mais en même temps, le gars qui a le vélo à 10 000 $ comme il disait, qui a tous les réflecteurs glint, là, puis il y a les différents produits là, que tu peux avoir, c'est pas lui le problème. Lui, il a servi, ou il y a un moyen de
il est visible, en tout cas.
Il est visible.
Ouais. Le but est atteint. Là.
C'est plus l'autre à l'autre bout là, de l'échelle ou entre les deux. Là.
Okay. On rappelle donc, Marc Brière, cette campagne en ce moment de Vélo Québec.
Oui.
Donc,
la courtoisie, il faut penser aux autres autour de nous. Et comme j'aime dire, en voiture, on prend son gaz égal et à vélo, on ne perd pas les pédales.
C'est très, très bon.
C'est beau, hein? C'est winner,
moi, je te reprendrai comme porte-parole. Je veux juste vous dire, on parle de Camille Inwood, puis il y a beaucoup de gens là, du monde de Montréal qui ont... qui ont réagi là-dessus. Il semble que ça soit un projet pilote et que l'expérience de 5 mois prend fin à la fin de ce mois-ci, le 31 ouais. octobre. Il y aura d'ailleurs, il y a eu des consultations publiques là, qui ont été lancées, ce qui se termine donc le 31. Après, on dit que l'Office de consultation publique de Montréal va organiser une soirée d'information. C'est le 8 novembre, pour ceux que ça intéresse. On va voir ce que ça va... Moi, je pense qu'ils vont le mettre... permanent. Ben, ça, c'est mon impression. Cas, nous aurons donc l'occasion d'en redébattre. Ouais. Merci beaucoup, Marc-André Léger. Merci, Marc Brière. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Je reçois le chef de la sécurité d'Unité 9, le comédien Mathieu Baron. Restez là, tout le monde.